Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, la canicule épisode 2, on dépasse les 35 aujourd'hui dans beaucoup de villes. Bonjour Élodie Callac.
Bonjour à tous.
39 à Grenoble, ce sera l'un des records, toujours une grande partie de la France en alerte orange et donc beaucoup de villes autour ou au-delà des 35 cet après-midi.
Oui, 35 à 39 degrés entre le centre et l'est du pays, 30 à 34 degrés ailleurs avec 33, 34 degrés à Paris. On respire mieux près de la Manche, 21 à 29 degrés. Quelques averses en ce moment sur l'Aquitaine, ça fait du bien. Sur la Bretagne, le Cotentin, attention aux orages attendus ce soir. Le pic de canicule reste prévu jeudi et vendredi, avec 40 degrés souvent atteints, jusqu'à 42, voire un petit peu plus par endroit, et des nuits étouffantes. On va certainement battre des records.
La canicule et les questions qu'elle ouvre avec Sonia Princey, les détails pratiques et d'organisation après le report de quelques jours du brevet. Autre sujet de débat, en cas de pic de pollution, la circulation différenciée sera imposée plus vite à Paris au moins et elle sera plus stricte. Est-ce une bonne chose ou pas? Est-ce suffisant ou pas pour lutter contre ces pics de pollution? Question à notre invité, le député Mathieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot. Et alors que le projet de loi énergie-climat est examiné à l'Assemblée, le gouvernement a-t-il vraiment verdi son action? La canicule, c'est aussi la chronique santé de Daniel Messager. Cet épisode souligne un peu plus l'urgence de développer le secteur de la gériatrie. Emmanuel Macron perd des galons de bons gestionnaires. L'évolution de la dette publique inquiète la Cour des comptes.
Le message que nous adressons est un message de prudence. La situation de la France par rapport à ses partenaires s'est plutôt dégradée. En plus, les objectifs de redressement ont été réduits à la baisse.
Le premier président de la Cour, Didier Migaud, les mesures prises en réponse aux gilets jaunes ont forcément un coût. Détail tout à l'heure avec Delphine Simon. 50 milliards de dollars pour mettre fin au conflit israélo-palestinien, c'est le pari de l'administration Trump. Le développement économique ferait oublier les autres sujets. Le plan est présenté aujourd'hui. Ça se passe à Bahreïn. Les Palestiniens appellent à boycotter le sommet. Dans ce journal encore, les 10 ans de la mort de Michael Jackson. Nous irons en Afrique. Et puis parole de supporters américains avant le quart de finale face à la France vendredi. Et des sujets fraîcheurs, notamment une playlist de chansons bien glacées. C'est sur franceinter.fr. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
38 degrés cet après-midi dans le Tarn-et-Garonne. Comment cultiver des melons dans ces conditions? Francis Mirc travaille à Nègrepelisse.
Ouais, c'est un problème. Bon, enfin, il faut essayer de le gérer du mieux possible. C'est-à-dire que, bon, mais on commence à travailler de bonne heure le matin. Ce matin, par exemple, vous voyez, j'ai commencé à 6 heures, bon, à faire les traitements sur les melons. Et puis là, on essaye de finir ça avant midi, de manière, bon, à ce que cet après-midi, au moment des grosses chaleurs, bon, mais on essaiera de faire quelque chose de plutôt à l'ombre qu'en plein champ, quoi. Et après, on revient de travailler dans les champs un petit peu le soir, quoi. Tant pis, on termine les journées à 22h, mais bon, il fait quand même meilleur qu'à 3h de l'après-midi quand il fait 38 ou 39, quoi.
Ouais, oui, voilà pour les champs. Dans les écoles, collèges et lycées, l'information clé, c'est le report de l'épreuve du brevet. Ce devait être jeudi, vendredi, ce sera lundi, mardi prochain ou en septembre, si vraiment les élèves ne sont pas disponibles la semaine prochaine. Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
Spécialiste des questions d'éducation à France Inter. Alors tout cela ouvre beaucoup de questions, on voit ça avec vous. D'abord, très concrètement, nouvelle convocation ou pas?
Oui, les principaux de collège vont redistribuer des convocations aux élèves d'ici vendredi avec les bonnes dates. Les horaires et l'ordre des épreuves sont inchangés, mais pas de panique, un élève avec la convocation initiale et sa pièce d'identité sera bien sûr accepté lundi matin.
Comment est-ce qu'on justifie une absence lundi et mardi prochain?
Alors il faut pouvoir justifier d'un empêchement majeur, mais les règles seront souples. Un titre de transport acheté à l'avance par exemple, ou une situation familiale particulière, des parents divorcés et un enfant qui devait partir avec son père ou sa mère au 1er juillet, tous ces cas seront examinés. Il suffit de soumettre sa demande au principal du collège, qui acceptera ou non que l'élève passe le brevet à la session de remplacement de septembre. Mais ce ne sera pas forcément facile pour les candidats de se remettre dans les révisions début septembre alors qu'ils seront au lycée. Ouais. Donc il faut bien réfléchir à l'intérêt de l'élève, peser le pour et le contre.
Et puis il y a un lien avec les inscriptions dans les lycées, évidemment. Est-ce qu'elles sont décalées, elles aussi?
Non, ça ne change pas. Les élèves de 3e devaient connaître à la fin des épreuves du brevet vendredi après-midi leur affectation au lycée. C'est maintenu. Ils auront bien le document vendredi. Les inscriptions dans les lycées auront lieu comme prévu à partir de lundi. La date des résultats du brevet ne change pas non plus, entre le 8 et le 10 juillet.
Alors voilà pour les collèges. Maintenant, la question en suspens d'éventuelle fermeture des écoles jeudi et vendredi au moment du pic de la canicule. Qui décide? Quelles règles? Est-ce qu'il risque, Sonia, d'y avoir beaucoup de fermetures?
Alors c'est le chef d'établissement ou le directeur d'école qui connaît bien ses locaux qui peut demander la fermeture. La décision est prise en lien avec le rectorat et la collectivité locale et par le préfet en bout de chaîne. Difficile de dire pour le moment combien d'école seront concernés. Les mesures vont être prises aujourd'hui pour que les parents soient prévenus et s'organisent. Dans le Val-de-Marne, par exemple, le maire de Plessis-Trévise a déjà annoncé la fermeture de ses écoles jeudi et vendredi. Pour les parents qui ne pourront pas faire garder leurs enfants, un accueil est prévu dans des salles climatisées, mais évidemment, ce ne sera pas possible partout.
Bonjour Mathieu Orphelin.
Bonjour à vous.
Député autrefois En Marche, aujourd'hui écologiste non inscrit, proche de Nicolas Hulot. Globalement, est-ce que vous trouvez que le gouvernement en fait beaucoup, voire trop, à propos de cet épisode de canicule? Un point tous les jours, le report du brevet?
Non, moi ça me paraît important. C'est une canicule très forte, donc je crois que ça nécessite une prise en compte assez exceptionnelle. Par exemple, je pense que le report de la date du brevet, avec toutes les souplesses que vous venez d'évoquer, me paraît être une bonne décision. Effectivement, je crois que d'ailleurs, cette canicule n'est que la bande-annonce de ce qui va se répéter de façon beaucoup plus fréquente dans les prochaines années. Et donc, il faut qu'on se prépare aussi à ces dérèglements climatiques qui seront de plus en plus importants.
C'est ça. Jusque-là, il y avait des réticences, notamment dans la classe politique, à faire un lien direct entre météo et climat. De plus en plus, on peut le faire, ce lien.
En tout cas, ce qui est clair, c'est que les scientifiques, dans leurs rapports, dans leurs études, nous disent oui, le réchauffement climatique pour des pays comme la France va s'accompagner d'une augmentation des périodes de sécheresse, d'une augmentation des périodes de canicule, des canicules qui seront plus nombreuses mais aussi plus fortes. Et donc effectivement, c'est pas de la science-fiction, c'est le monde qu'on prépare aujourd'hui avec les émissions de gaz à effet de serre qui sont trop importantes. Donc maintenant, il faut vraiment qu'on change d'échelle sur l'action, il faut qu'on réduise beaucoup plus fortement qu'aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on peut encore éviter un réchauffement de 4-5 degrés, qui est la route sur laquelle on se place aujourd'hui. On peut limiter le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés. Mais pour ça, il faut changer radicalement de politique. Il faut des mesures urgentes et radicales.
Et très concrètement, en ce moment, on éteint la clim?
En tout cas, la climatisation, c'est pas la solution miracle, parce qu'en plus, dans les villes, ça rejette de la chaleur, donc ça contribue à cet effet des îlots de chaleur, qui fait qu'en ville, vous pouvez avoir 10 degrés de plus qu'à 20 km en campagne. Donc, la clim, c'est tout sauf la solution miracle. Il y a plein d'autres solutions, notamment à la maison, les ventilateurs, mettre des serviettes mouillées devant les ventilateurs, etc. Il y a plein de solutions. La climatisation, c'est vraiment un pansement sur une blessure.
Jambe de bois. Alors, Chaque crise au moins fait avancer certaines causes. La circulation différenciée, plus automatique, plus rapide en cas de pic de pollution désormais, et plus stricte. Pas de voiture essence d'avant 2005, pas de diesel d'avant 2010. C'est ce qu'annonce le ministre de la Transition écologique. Ça, c'est bienvenu, Mathieu Orphelin.
Oui, parce qu'avant, on perdait souvent 2-3 jours au moment de la préannonce des pics de pollution, à se demander, à se renvoyer la balle, des fois entre la préfecture de police, les élus, les maires, etc. Est-ce qu'il faut mettre en place des mesures telles que la baisse de vitesse ou la circulation alternée. Maintenant, grâce à ce qu'on a voté dans la loi mobilité, enfin, ce sera immédiat. Et il faut effectivement que ces mesures se mettent en place. Et là aussi, les sujets de climat, de canicule et de pollution de l'air sont intimement liés. Et donc, il faut avoir plus de mesures pour lutter contre la pollution de l'air que ce qu'on a eu par le passé. Il faut là aussi changer d'échelle.
La question de la clim pouvait sembler légère. Une autre question qui est lourde, de milliers d'emplois. Est-ce que les véhicules diesel doivent avoir la vignette critère 1 qui permet de rouler quand il y a une circulation différenciée?
On sait tous les scandales qu'il y a eu sur le diesel ces dernières années, avec des constructeurs qui ont volontairement caché les émissions de polluants de ces véhicules diesel. Donc pour l'instant, je crois personnellement que il faut que les critères 1 soient vraiment restreints aux véhicules dont on a l'assurance que sur l'ensemble des polluants locaux, on soit à un niveau très faible d'émissions. Donc voilà, moi à titre personnel, je suis pas forcément favorable à ce que les diesels puissent avoir cette critère 1. Maintenant, ce qu'il faut surtout aujourd'hui, c'est qu'on arrive à embarquer nos constructeurs dans les nouvelles motorisations, qu'on arrive à faire que effectivement ce soit une chance pour notre industrie automobile, qui est encore très forte en France, qu'elle se lance encore plus qu'aujourd'hui dans les motorisations propres.
Alors parallèlement, le projet de loi climat-énergie est en discussion à l'Assemblée. Pourquoi est-ce qu'il ne vous convient pas? Pourquoi est-ce qu'il ne vous suffit pas, notamment cette mesure clé sur les passoires énergétiques? On bloque une partie de la somme en cas de vente de logements pour les logements les moins bien isolés. Pourquoi ça ne vous suffit pas, ça?
Parce que pour l'instant, cette mesure de consignation, c'est une mesure qui peut être intéressante, ouais. Mais pour l'instant, telle qu'elle a été votée en commission la semaine dernière, elle est trop restrictive. C'est une expérimentation pour 2 ans et seulement sur certains territoires. Moi, je crois beaucoup plus à une mesure qu'Emmanuel Macron portait dans la campagne présidentielle, qui est la fin de location des passoires thermiques, donc d'une certaine façon, l'obligation de faire des travaux dans ces logements très consommateurs. Mais en même temps, on avance jusqu'à 100% du coût des travaux aux propriétaires qui n'ont pas les moyens de faire les travaux. Donc c'est génial. Les locataires ont des factures moins importantes et les propriétaires se voient plus aidés qu'aujourd'hui à faire des travaux. Donc c'était une mesure très forte, favorable pour tout le monde. C'est celle que je reporterai cette semaine avec des collègues à l'Assemblée nationale parce que c'est, là aussi, c'est une question de justice sociale, de justice écologique. Il y a près de 7 millions de Français qui vivent en situation de précarité énergétique, qui peuvent plus chauffer l'hiver et qui, en plus, l'été pendant les canicules, un logement mal isolé, c'est invivable.
Le gouvernement n'a pas encore assez verdi son action malgré les promesses et les déclarations?
Non, pour l'instant, le gouvernement n'a pas assez verdi son action. Il y a eu un changement dans les discours, notamment le Premier ministre, l'acte 2, son discours de politique générale, il a redonné une ambition forte, mais maintenant on ne la voit pas encore concrètement assez dans les actes. J'encourage le gouvernement à faire beaucoup plus pour la transition écologique. C'est la vie des Français qu'on améliore, c'est le pouvoir de vivre.
Merci Mathieu Orphelin d'être venu dans les studios de France Inter. Allez, nous avons commencé cette séquence dans les champs, finissons là à la laiterie. C'est en pleine canicule que la filière lait présente ses mesures pour économiser l'eau. Par grosse chaleur, sachez-le, une vache peut consommer jusqu'à 100 litres d'eau par jour. Les laiteries sont très gourmandes également. Comment changer les choses, Manuel Ruffez?
Dans l'industrie laitière, sans eau, toute la production s'arrête. Alors à partir d'une étude menée par l'Institut Technique Actalia, l'interprofession édite un guide des bonnes pratiques. Celles déjà mises en œuvre dans certaines laiteries qui ont fait leurs preuves, puisqu'en 10 ans, la filière a réduit de 20% l'utilisation d'eau. Avec des idées parfois inédites, Clarisse Blanchard s'occupe d'environnement pour la filière.
Le lait est composé à 88% d'eau. Quand on fait par exemple de la poudre de lait, une partie du lait va être déshydratée, donc c'est ce qui nous intéresse nous pour la production, mais il reste 80% d'eau qui sont utilisables pour des usages comme le lavage des sols, le lavage des camions, pour justement répondre à cette question des périodes de sécheresse, etc.
Objectif, une mise en place de ces bonnes pratiques dans 100% des industries d'ici 5 ans. Dans les élevages, pas question bien sûr de réduire la consommation d'eau des animaux. En revanche, il y aurait un apport sur la qualité de l'eau.
Dans les zones d'élevage, on a pas mal de prairies notamment. Et ces prairies, elles ont un rôle intéressant dans le sens où elles peuvent filtrer l'eau qui s'infiltre dans le sol et récupérer tout un tas d'éléments qui ne se retrouveront pas dans l'eau qu'on trouvera dans les nappes. Donc notamment les nitrates, par exemple. L'élevage a vraiment tout son rôle à jouer pour la préservation de l'eau.
Et la filière le dit, on n'est plus aujourd'hui sur une simple adaptation, mais sur une nécessité absolue de changer les pratiques.
Entre météo et changement climatique, encore quelques informations en vrac. Cette appli sur vos téléphones qui permet de géolocaliser les fontaines de Paris, ça s'appelle MapSTR. Cette alarme tirée par les producteurs de miel français qui prévoient déjà une production de miel catastrophique pour cette année, notamment à cause des conditions climatiques. Et puis je vous rappelle le numéro, la plateforme d'information Canicule Info Service accessible. C'est un numéro vert 0800 06 66 66 0800 06 66 66.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvis.
Et 4 jours après la fête de la musique à Nantes, toujours aucune nouvelle de Steve. Ce jeune homme était de la bande qui a eu maille à partir avec la police en toute fin de soirée. Lacrymo, grenade de désencerclement, panique, tout cela au bord de la Loire, 14 personnes au moins dans le fleuve. La police des polices est saisie. Aucune nouvelle de Steve, qui ne savait pas nager. Détail crucial donné par une proche à France Inter hier. Les recherches se poursuivent. Et pour les proches, un sentiment d'incompréhension et d'impuissance. Reportage à Nantes, Florian Cazola.
Pendant qu'un hélicoptère de la gendarmerie survole la Loire, Chloé, une amie de Steve, scrute les eaux boueuses du fleuve.
On se sent impuissant là, parce qu'on ne peut rien faire de plus à part essayer de faire le tour, marcher, voir si on voit quelque chose, et c'est un peu compliqué là, donc on va faire notre possible.
À une petite dizaine de mètres de là, sur le bord du quai, Oriane a les yeux rivés sur le fleuve et elle espère ne serait-ce qu'un tout petit indice, mais après quelques minutes, toujours rien.
Enfin là, on a repéré que du coup le courant il allait plutôt vers là et mon amie elle a dit que ça descendait plus vers la Bassindre. En général, les corps retrouvés, tout ça, donc on va voir. si on ne peut pas regarder.
Les mineux tristes, les copines de Steve, cherchent à comprendre ce qu'il s'est passé depuis deux nuits. Victoria ne dort quasiment pas et passe presque tout son temps à lire les commentaires sur les réseaux sociaux.
Plus les heures passent, plus malheureusement on est vraiment à se dire que il restait peut-être un 15e dans l'eau et que personne ne l'a vu et qu'on se pose vraiment des questions du coup.
Beaucoup de questions auxquelles l'enquête de l'IGPN, la police des polices, devra répondre dans les semaines à venir.
En bref, des avancées dans deux enquêtes sur les attaques terroristes de ces dernières années. Magnanville, le couple de policiers tué en juin 2016 à son domicile en banlieue parisienne. Trois hommes trentenaires ont été placés en garde à vue ce matin. L'une des questions clés de l'enquête est la suivante. Comment le tueur et son complice présumé ont-ils pu avoir autant de détails sur la vie privée du couple de policiers? En mars 2018, la tuerie de Carcassonne et la prise d'otage dans le supermarché de Trèbes, là où Arnaud Beltrame avait trouvé la mort. Cinq personnes sont en garde à vue depuis ce matin. Elles sont soupçonnées d'avoir fourni les armes aux terroristes. L'actualité économique à présent. La Cour des comptes regardait avec une certaine bienveillance l'action du pouvoir jusque-là. Eh bien, c'est fini. À propos de la dette publique, l'institution parle désormais de risques significatifs, de situations dégradées, d'évolutions préoccupantes. C'est un rapport remis et détaillé ce matin. Les mesures prises en réponse à la crise des gilets jaunes en particulier pèsent sur les comptes. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
La Cour relève tout de même quelques points positifs.
Oui, il y a quand même quelques améliorations d'un an sur l'autre. La dette s'est stabilisée, elle baisse même légèrement en 2018 et la masse salariale est mieux maîtrisée dans les hôpitaux et les collectivités territoriales. Mais ça reste très fragile selon la Cour des comptes. Si on se compare à nos voisins, la France fait nettement moins d'efforts pour maîtriser sa dette publique. 40 points nous séparent de l'Allemagne. Et les annonces faites par le gouvernement après le grand débat, la baisse d'impôts de 5 milliards d'euros, la revalorisation des pensions de retraite, ces gestes pour le pouvoir d'achat des ménages, il paraît peu probable, selon les sages de la rue Cambon, que l'État puisse les compenser intégralement l'an prochain. Le gouvernement va donc avoir du mal à tenir son objectif. Baisser le déficit public à 2% de la richesse l'an prochain, c'est le chiffre transmis à la Commission européenne en avril. Préoccupant, selon les sages de la rue Cambon, car la France sera alors moins armée que ses voisins en cas de choc économique ou de crise financière.
Quelques dizaines de milliards de dollars peuvent-ils solder un conflit qui dure depuis des décennies? Depuis deux ans et demi que l'équipe Trump est au pouvoir à Washington, on annonce que le gendre travaille sur un plan de paix entre Israéliens et Palestiniens. Une partie est officiellement présentée aujourd'hui lors d'une conférence à Manama, capitale de Bahreïn, dans le golfe Persique. Alors oubliez les discussions sur le statut de Jérusalem, le retour des réfugiés, le partage des territoires, non, il sera question de gros sous. Bonjour Aurélien Colli.
Bonjour Bruno.
Correspondant de France Inter dans la région. En quoi consiste le plan de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, Aurélien?
Alors pour la partie Bahreïn, lever 50 milliards de dollars pour investir pendant 10 ans dans l'économie des territoires palestiniens et obtenir, pour citer le slogan du sommet, la paix par la prospérité. Le plan promet aussi 1 million d'emplois en une décennie et une route ou une voie ferrée également pour relier Gaza à la Cisjordanie. La moitié de la somme irait également à des projets en Égypte, en Jordanie et au Liban qui hébergent près de 5 millions de réfugiés palestiniens. Cet argent viendrait essentiellement des monarchies pétrolières du Golfe. Le problème, c'est la contrepartie de ce développement promis par Washington. Le volet politique ne sera dévoilé qu'à l'automne, mais il ne prévoirait pas d'État palestinien souverain, ni de droit au retour des réfugiés. L'argent et l'économie, c'est important, mais la politique l'est plus encore, a résumé Mahmoud Abbas, président d'une autorité palestinienne qui boycotte ce sommet.
Aurélien, il suffit de regarder une carte pour constater que Bahreïn est pile en face de l'Iran. Relation plus que tendue entre États-Unis et Iran en ce moment. Et l'Amérique compte ses alliés. Une bonne partie des pays arabes participent à cette conférence alors que les Palestiniens appelaient à la boycotter. Est-ce que ça veut dire que les pays arabes, singulièrement ceux du Golfe, sont en train de lâcher les Palestiniens ?
Alors c'est plus nuancé Bruno, car les pays arabes ont beaucoup à perdre en fait. D'abord il va falloir assumer vis-à-vis de leurs opinions publiques largement pro-palestiniennes. Ensuite pour ceux qui accueillent des réfugiés palestiniens il faudra les assimiler. Et ce fait accompli, certains états n'en veulent pas même avec des milliards de dollars. Le Liban par exemple qui boycotte le sommet, boycotte aussi de l'Irak pour des raisons cette fois de proximité avec l'Iran qui n'est pas convié à Manama et qui s'est affirmé ces dernières années comme le vrai défenseur des Palestiniens. Et puis il y a les pays arabes qui vont à Manama mais à reculons, l'Égypte, la Jordanie, trop dépendantes des aides financières des États-Unis, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Le Caire et Amman sont donc obligés d'afficher un certain alignement avec leurs alliés et donateurs. Mais le chef de la diplomatie égyptienne l'a dit, son pays ne va pas à Bahreïn pour approuver ce plan américain. La décision finale reviendra à l'autorité palestinienne. Et puis enfin, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis affichent leur soutien au plan américain et c'est elles qui passeront à la caisse pour Riyad et Abu Dhabi. L'ennemi en fait n'est plus Israël, mais le grand rival chiite, l'Iran. Ennemi commun donc avec Washington et avec Tel Aviv. Cela étant dit, certains analystes estiment que ces deux pays ne lâcheront pas pour autant les Palestiniens, mais qu'ils savent que ce plan américain est voué à l'échec. Leur intérêt est donc plutôt de jouer les bons élèves avec Washington dans leur stratégie contre Téhéran.
Et à propos des tensions entre Iran et États-Unis, cette précision de la Russie ce matin qui se met clairement du côté de l'Iran, elle affirme que le drone américain abattu il y a quelques jours l'a été dans l'espace aérien iranien. C'est un objet de discussion entre Iraniens et Américains. Nous en venons à la chronique santé, comme chaque mardi dans ce journal de 13h. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
Cet nouvel épisode de canicule le montre un peu plus. On manque de gériatre en France.
Oui, et la crise aux urgences est multifactorielle, celle qu'on vit actuellement. Mais un de ces facteurs est primordial, effectivement, c'est que beaucoup de personnes âgées s'y retrouvent alors qu'elles n'ont rien à y faire, entre autres parce que les gériatres ne sont pas assez nombreux pour les suivre. On manque de gériatres, pourtant c'est une discipline qui devrait attirer davantage. Gaëtan Gavazzi est professeur en gériatrie au CHU de Grenoble. Il aime sa spécialité et il veut convaincre les jeunes.
La gériatrie est une discipline extrêmement moderne puisqu'elle s'occupe ou elle va s'occuper de gens qui n'existent pas encore. Si je vous dis qu'il y a 20 ans, 25 ans quand j'ai commencé, la population de 90 ans n'existait pas. Et donc ils arrivent avec des problématiques spécifiques auxquelles il faut répondre. C'est du soin, c'est de l'humanité. Faut avoir envie d'écouter des histoires, beaucoup d'histoires, et faut avoir envie de les faire raconter. Mais aussi être un technicien hors pair, puisque c'est beaucoup plus difficile d'arriver à des diagnostics chez des gens qui ont plein de maladies que quand on en a une seule. Faut aimer la recherche et faut aimer l'homme, tout simplement.
Et plus que tout autre spécialiste, il s'interroge sur l'éthique en gériatrie qui est la prise en charge des personnes âgées, hein, on le rappelle.
Oui, quel est le bénéfice, quel est le risque? Cette personne très âgée, je la soigne pour quelle suite, pour quel avantage de vie pour elle?
Quand on choisit de mettre un médicament à un patient âgé, on réfléchit aux bénéfices potentiels qu'il va avoir, aux risques qu'on prend. Alors c'est particulièrement vrai quand vous avez des gens qui arrivent avec des listes de 10, 15, 20, 25 médicaments accumulés par nos collègues spécialistes d'organes qui chacun traite la maladie qu'il doit traiter sans forcément avoir cette vision globale. Donc on est dans une discussion éthique permanente du juste soin. On va vers des zones qui sont complètement inexplorées. Personne n'a vécu cette révolution démographique. On vous avait écrit à peu près votre parcours de vie il y a 60 ans. On savait que la retraite, on mourrait juste après. Donc dès qu'on a eu plus de troisième âge, on s'est dit qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme on vieillit bien, on a des gens qui ont trouvé une place. Le quatrième et le cinquième âge, on leur donne pas de place actuellement.
Considérer la personne âgée autrement, c'est tout le défi donc des années à venir. En gériatrie, on recrute aujourd'hui 170 internes par an et il en faudrait plus de 300.
Merci Daniel Messager, chronique à retrouver sur franceinter.fr. La chaleur aura-t-elle raison de la finale du championnat de France de basket? Le match décisif a lieu ce soir en principe à Villeurbanne entre les joueurs de la région lyonnaise et Monaco. Coup d'envoi à 20h45, mais la salle est bouillante. Si la température était trop élevée, le match serait reporté. Décision prise en fin d'après-midi. Dans la Coupe du Monde de foot, Italie-Chine à 18h à Montpellier. C'est l'avant-dernier huitième de finale à jouer. Le dernier, ce sera 21h, Pays-Bas-Japon. Et ça se jouera à Rennes, où le climat devrait être plus clément qu'à Montpellier. C'était il y a 10 ans exactement, 25 juin 2009, un choc pour des milliers et même des millions de personnes. La mort de Michael Jackson, surdose de médicaments. Les jours suivants, dans une bonne partie de la planète, ce ne fut qu'une vaste playlist des titres du King of Pop. Il était partout. 10 ans après, pas vraiment de grand hommage. Le documentaire où deux enfants devenus grands disent avoir été victimes d'attouchements sexuels dans le palais de Jackson à Neverland sont passés par là. Il est des endroits très loin de la Californie, cela dit, où on pleure Michael Jackson. Nous allons en Côte d'Ivoire, en 1992, à la recherche de ses ancêtres africains. La star était passée par Krinjabo. Le roi local l'avait alors fait prince. Reportage aujourd'hui, Amandine Réau.
Dans le salon du roi Amon Ndoufou V, la photo de Michael Jackson, intronisé prince du royaume du Sangui en 1992. Le chanteur à la recherche de ses ancêtres a fait des tests ADN qui l'ont mené dans la petite ville de Krinjabo. Une fierté selon le porte-parole du roi, Olivier Cattier.
Il a d'abord rencontré le roi. Il a démontré effectivement que son origine vient d'ici. Jackson a été accueilli par sa famille, par tout le royaume. Retrouver un enfant prodige, comme dans la Bible, c'est en l'honneur du roi du sang et du royaume. Ça a été une grande fête inoubliable.
À la mort du roi de la pop en 2009, le royaume organise des funérailles et réclame le rapatriement du corps, sans succès. Mais une stèle va être construite en hommage, l'objectif attirer les touristes et les afro-descendants en pèlerinage. Une chose est sûre, les affaires de pédophilie n'ont pas écorné l'image de Michael Jackson. Jacqueline Caggio, une habitante.
Michael, il avait son côté humain. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont profité de sa gentillesse pour pouvoir lui soutirer de l'argent ou bien faire pas mal de méchanceté. Moi, je ne crois pas à tout cela.
Aujourd'hui, le roi organise une cérémonie traditionnelle avec la famille du défunt. Et ce restaurant diffuse des chansons de Michael Jackson qui font toujours danser. Krinjabo en Côte d'Ivoire, Amandine Réau, France Inter.
Allez, après les titres de Michael Jackson, une autre playlist. Playlist pour lutter contre la canicule. C'est le cadeau fraîcheur de franceinter.fr. Que des chansons qui parlent de froid ou de glace.
Le fond de l'air est frais, laïho, laïho. Il n'y a plus de saison, laïho, laïho.
Voilà, c'est comment se protéger de la canicule. C'est une playlist à retrouver sur franceinter.fr. Elle est signée Julien Baldacchino. Comment se protéger de la chaleur? Eh ben, en allant dans les régions où les températures restent clémentes en ce début de semaine. C'est ce qu'a fait Béatrice Duguay. Reportage à Honfleur, tourné hier.
Ici, le thermomètre est raisonnable.
Combien de degrés ici extérieurement? Je dirais peut-être 18 degrés.
Honnêtement, il doit faire 1 ou 2 degrés de plus, mais les conseils à l'office du tourisme de la ville sont avisés.
Ici, vous êtes dans la vieille ville médiévale. Le numéro 15, vous êtes dans une serre au milieu des papillons et des oiseaux tropicaux. Pratique si vous voulez vous réchauffer un petit peu.
Car effectivement, Sylvie, il y a quand même de la canicule partout. C'est rouge, 40, etc. Et vous avez un pull sur le dos.
On est mieux au frais, ouais. On s'est dit 41, 42 à la maison. Bon, ben pourquoi pas la Normandie, ça sera peut-être plus agréable.
Plus agréable que Toulouse ou que la région parisienne, pas de doute pour Christelle et Daniel, venus de l'Essonne en vacances.
Ça nous permet de nous échapper un peu de la chaleur.
On va échapper à la canicule, mais on a la mer, on peut se baigner si jamais il fait chaud. Voilà.
S'il pleuvait pas, ce sera mieux, quoi.
Oui, je suis d'accord avec vous.
C'est pas grave, c'est agréable aussi.
Ouais, c'est agréable aussi, ça permet aussi de se balader.
Ça rafraîchit. Et je vois qu'on n'est pas les seuls à être venus ici ce week-end.
Car c'est un atout pour Honfleur quand il fait très chaud ailleurs. Exemple de l'année dernière à l'appui pour Anthony de l'Office du Tourisme.
On a eu une augmentation de la fréquentation des Espagnols et des Italiens. Cette année, c'est déjà bien fréquenté. Là, en ce moment, on ne se rend pas bien compte, mais dès qu'il fait chaud, c'est vrai que les gens se dirigent plus vers la plage ou les jardins pour être à l'extérieur plus qu'en intérieur.
Selon Météo France, les températures ne devraient flirter avec les 30 degrés que vendredi sur la Normandie.
Et pour l'instant, le Calvados en particulier, département d'Honfleur, fait partie des rares qui ne sont pas colorés en orange sur la carte.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
53 départements en vigilance orange, Elodie Calac.
L'épisode de canicule se poursuit, c'est encore respirable sur les régions voisines de la Manche et près de l'océan avec 21 à 29 degrés, 30 à 34 degrés ailleurs, 34 à Paris, à Montauban, jusqu'à 35 à 39 degrés entre le centre et l'est, 36 à Strasbourg, Besançon, Marseille, 37 à Lyon et Montélimar et même 39 à Grenoble. Tout ça sous le soleil. Alors on trouve quand même des nuages sur la Bretagne, le Cotentin. Attention, des orages sont attendus ce soir et cette nuit. Pour la suite, de l'air brûlant continue à remonter du Sahara, de plus en plus sec. Entre jeudi et vendredi, on attend le pic de la canicule avec des nuits étouffantes, pas moins de 20 degrés, jusqu'à 25-26 degrés à Nice par exemple. En journée, souvent 35 à 42 degrés, parfois plus. Ça devrait s'améliorer doucement sur le nord ce week-end avec l'arrivée d'air moins chaud. Au sud, en revanche, l'épisode pourrait se poursuivre jusqu'en début de semaine prochaine.